Bonjour et bienvenue à Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode non pas avec une, mais deux invités qui vont nous faire découvrir l'univers du théâtre d'improvisation.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Clotilde Huet et Joanne Test, directrices de la compagnie Limon. Et en deuxième partie, on reste avec elles et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Clotilde et Joanne.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, vous êtes toutes les deux directrices de la compagnie Limon, une compagnie de théâtre d'improvisation. Vous sortez toutes les deux d'une école de théâtre et plus particulièrement d'une formation de comédienne. Ma première question c'est, est-ce que dans votre formation vous avez travaillé le théâtre d'improvisation ou vous venez d'une formation un peu plus générale ?
Alors je pense que ça, c'est quasiment pareil pour toutes les deux, mais on va dire que dans la formation on s'est rencontrés, donc à l'école Claude Mathieu, qui est une école superbe dans le nord de Paris, on a eu une petite pratique de l'improvisation, mais enfin... dans le but d'être comédien de texte, donc c'est pas là-bas qu'on l'a apprise. Par contre, nous deux, enfants, même enfants pour Clotilde et ados pour moi, on a commencé l'impro assez tôt en tant qu'amateur et on s'est professionnalisé par la suite.
Est-ce qu'il y a une vraie formation de théâtre d'improvisation ?
J'ai pas envie de dire une bêtise, mais je pense pas. D'école professionnelle, il n'y a pas. Malheureusement, parce que nous, on a à cœur aussi de dire que ça mérite une formation, et d'où l'intérêt aussi de donner des cours, d'apprendre à faire de l'improvisation, parce qu'il y a un cadre, c'est un terrain de jeu, mais comme tout jeu, il faut des règles pour que ça rende quelque chose de super.
Et pour se former, donc il faut passer par des cours, je sais que votre compagnie en donne aussi, il y a d'autres, il faut juste passer par des cours et se lancer un peu dans le vide, ou c'est le mieux c'est d'avoir une formation de théâtre déjà un peu avant ?
Je pense que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que l'improvisation ça existe depuis la nuit des temps. Au final on en a fait quelque chose un peu à part, mais les comédiens ont toujours improvisé. Et je pense que c'est important de mettre de l'impro dans la formation de texte et inversement. Souvent nous on rencontre des comédiens qui font que de l'impro et on trouve humblement que ça mériterait de aussi se former assez solide au niveau texte, création de personnages et inversement. Des comédiens de texte que nous on a beaucoup rencontrés et qui nous disent ouais, ça fait vachement de bien l'impro, ça nous permet plein de choses. Mais ça arrive dans les formations maintenant d'improvisation. Au Conservatoire National par exemple d'art dramatique, il y en a. Les cours Florent, pour citer un cours connu, donnent des cours d'impro. Quand nous on a fait ça il y a 15 ans, c'était très mal vu. Le côté ouais, l'impro c'est là pour rigoler, pour. Vous êtes un peu des petits rigolos. Ici c'est théâtre de texte. On nous a critiqué un peu d'avoir fait ça dans notre formation. Ouais.
C'est les classiques et vous êtes les atypiques un peu du théâtre.
Qui avons juste envie de faire rire, alors ouais, c'est bien plus que ça l'impro. Quoi.
Parce que le théâtre d'improvisation, ça peut être du drame.
Complètement.
Ouais. Mmh. Je ne me rends pas compte.
En fait, l'improvisation, c'est simplement créer une histoire sans texte. Donc, au même titre qu'il y a des pièces dramatiques, des pièces comiques, il y a des improvisations dramatiques, des improvisations comiques. Et le but du jeu, c'est juste dire aux spectateurs... on va raconter une histoire ensemble. Et vous allez assister à tout en direct. On ne sait pas du tout ce qu'on va vous raconter, mais grâce à vous, on va raconter une histoire.
C'est l'art de l'instant poussé à son paroxysme. Ouais. Parce que déjà, l'art vivant, c'est de l'instant. On ne le refera jamais pareil. Mais là, c'est comment on peut se mettre en danger le plus possible et être vraiment à un moment unique avec le spectateur. Après, des fois, c'est drôle, des fois, ça ne l'est pas. Et ça, c'est... En tout cas, nous, on aime ça. De ne pas se dire, on va faire rire, on va faire pleurer, on voit ce qui se passe.
Ouais, vous voyez aussi en fonction du public ou pas, comment ils réagissent, ou c'est plus comment vous vous sentez, vous ?
Je dirais que c'est un mixte des deux, parce que le public est très porteur, en général. Et déjà, très souvent, le public choisit un élément de l'improvisation. Donc, suivant aussi le choix du public, ça nous amène à des endroits qui sont pas forcément les mêmes. Mais... c'est vrai que le public peut avoir un impact sur ce qu'on fait au plateau, même sans choisir les thèmes, etc. Les thèmes, c'est les titres des histoires qu'on raconte. Parce que si on a un public qui est très, très rieur, qui va chercher la moindre occasion de rire à tout ce qu'on fait, là, forcément, ça va peut-être plus nous amener à faire des choses comiques. Même si c'est presque plus intéressant d'amener des improvisations plus posée, plus sérieuse, je mets des guillemets dans sérieux pour pas dire ennuyeuse, mais face à des publics comme ça, justement pour voir à quel endroit eux-mêmes ça les amène et si quand on a un public très rieur, quand on arrive à faire des impros où ils sont juste bouche bée face à ce qu'on est en train de faire, on a un peu réussi un petit
de
challenge.
De les surprendre, en fait. Ouais. Ouais, il y a ce truc-là de les surprendre tout le temps, ou que ce soit d'aller chercher
ça. Il faut la décontenancer, il faut qu'ils ressentent avec une émotion un peu nouvelle.
Okay. On aime bien.
Comment être un bon public? Ou est-ce qu'on peut être un bon public où il n'y a pas de bon public?
Nous, souvent, on est... Alors, c'est pas... évidemment que ce n'est pas tout à fait ça, mais on adore dire ce qu'on appelle les vrais publics, c'est ceux qui finalement ne sont pas connaisseurs. Mais dans le théâtre aussi, dans plein... Moi, j'adore quand on a un public où on sent qu'il faut aller le chercher. On se dit, oula, ok, ils n'y connaissent rien. Donc, on fait notre travail. Au final, ce n'est pas un public gagné. Le public connaisseur aussi peut être un peu plus, peut-être... Enfin, jugeant, ils ont le droit, mais de... au final, ils comparent, ils se laissent parfois moins porter que quelqu'un qui n'y connaît rien. Après, ils ont le droit de venir aussi. Mais j'adore ce genre de public qui n'est pas un spécialiste, parce que c'est un peu un microcosme, l'impro. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont à fond. Il y en a qui ne connaissent rien. Il n'y a pas comme le théâtre où un peu tout le monde y va. L'impro, c'est plus particulier. On a vraiment des gens qui ne voient que ça, ne pratiquent que ça, sont à fond. Donc, bah, c'est, voilà. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais public à ça. C'est à nous d'en faire un moment extraordinaire. Voilà.
Mais je disais ça parce que j'étais allée dans une soirée de stand-up et à un moment donné, elle disait « Mais en fait, c'est aussi vous qui faites la soirée, ce qui est vrai. » Mais il y avait aussi cette chose où elle nous disait « En fait, il faut aussi se détendre et pour laisser le rire parler. » Et donc, c'était aussi quelque chose où on avait l'impression d'avoir aussi une responsabilité. Et donc, c'était un point de vue assez particulier, je trouvais. Là, on me disait souvent « C'est plus ceux sur scène qui ont tout le pouvoir, la responsabilité de la soirée. »
Déjà, le one-man, ils sont beaucoup plus dépendants du public aussi. C'est-à-dire que nous, on a cette chance d'être, je vais pas dire caché, mais on a un personnage. C'est pas nous. On se met pas, on se met en danger dans le sens où on crée en direct une histoire, mais c'est pas nous.
Enfin, c'est pas votre vie.
C'est pas notre vie. Mmh. C'est pas. Y a rien de préparé. On cherche pas le rire forcément. Donc, un public, je dirais un bon public, c'est un public qui écoute, pas plus. Là où peut-être effectivement, je connais pas très bien le domaine du one man. Mais peut-être que effectivement il y a une codépendance avec le public parce que effectivement si t'as préparé des vannes et que d'un coup c'est un énorme bide, c'est super dur à recevoir.
Okay.
Alors que nous, au pire, on continue et l'histoire parlera d'elle-même. Et si au final on a fait une vanne qui a raté, mais que on nous dit ouais, l'histoire elle était incroyable, vous avez préparé le truc, et nous on dit non, on n'a pas préparé, c'était vraiment en direct. Là on a gagné. Donc on a besoin du public, parce que c'est super porteur d'être regardé, d'être supporté, mais on n'a pas forcément besoin de réaction, de... Enfin, je sais pas.
Non, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a une vraie... On se rend compte aussi que c'est un milieu... On échange beaucoup entre gens du one man et d'impro, il y en a qui font les deux. Et en fait, c'est... Évidemment qu'il y a des similitudes comme tout art vivant, mais pas tant que ça quand même. Souvent, on nous compare, on joue dans les mêmes salles, on fait des choses un peu en commun, et puis les gens viennent quand même se divertir, hein, évidemment, en venant voir de l'impro. Mais l'impro qui est pratiquée en one man pour avoir pas mal de copains qui en font n'est pas la même que nous, on pratique. C'est-à-dire qu'elle est liée à ce qu'ils ont quand même prévu, elle est dans un but effectivement de faire rire, elle est souvent directement en lien avec le public, on va chercher à faire une vanne sur le mec de devant, etc. Nous, pas du tout, il n'y a pas d'échange comme ça. Nous, on prend tout sur nous. C'est-à-dire que jamais de la vie, on va aller, aller titiller quelqu'un dans le public. Ce n'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est vraiment nous qui nous mettons entièrement en danger et on ne prend pas appui là-dessus sur le public du tout. C'est là la grosse différence.
On remarque que le stand-up, ça monte beaucoup. Il y a énormément de salles, ça marche très bien. Pourquoi le théâtre d'improvisation ne marcherait pas dans le sens où ça fait encore plus longtemps que ça existe? Ça a un peu toujours existé. Et pourquoi j'ai l'impression que le théâtre d'improvisation marche moins? En tout cas, on en voit moins. Pourquoi?
Alors déjà, ça émerge de plus en plus, parce que pour avoir connu l'évolution de l'improvisation sur 15 ans, il y a de plus en plus de productions, de théâtre qui accueille l'improvisation, ce qui pour nous est,
ah oui, vous étiez
est incroyable.
Pas du tout, vous étiez plus dans des salles de mairie, des choses comme ça, ou dans
oui,
des bars
ça. Oui.
Ouais. Là, on a des salles qui achètent, c'est-à-dire qui vraiment valorisent ce travail-là, on est payé pour le faire, ce qui est quand même
ce qui pour
déjà
nous est incroyable. Et effectivement, le stand-up est en train de vraiment prendre énormément de place sur la scène culturelle, mais l'improvisation aussi, c'est plus lent, on va dire, parce que peut-être aussi parce que c'est plus cher, parce qu'en one man, il n'y a qu'une seule personne à payer, enfin un stand-up. Là où en improvisation, il y a minimum, on va dire, 3-4 personnes pour qu'il y ait un spectacle. Et, mais après, je ne sais pas trop pourquoi...
Il y a aussi, on en parle souvent avec beaucoup de respect, mais il y a un énorme milieu amateur dans l'improvisation qui existe et c'est génial. Et on a du mal à se professionnaliser. C'est-à-dire que souvent, l'amalgame est fait entre... Nous, souvent, ils disent « Ah, mais c'est votre métier !» Ben oui, en fait, on essaye d'en vivre. Et quand on dit professionnel, c'est aussi parce qu'on travaille toutes les semaines à ça, qu'on répète en journée, c'est pas juste une activité du soir. Et je pense qu'on souffre un petit peu de ça, ou soit pour les gens du métier, donc les programmateurs de théâtre, etc., voient ça comme un passe-temps. Voilà, ils se disent « C'est sympa, tout le monde en fait, mais de là à acheter et vendre des places à 25 euros, franchement, non. » Et pour le public pro et le public, on va dire, qui vient nous voir, là, c'est pas trop ce qu'il vient voir, du coup, ils connaissent pas le niveau, je sais pas comment le dire bien, tu sais, on se dit souvent que par exemple en danse, ou même en théâtre classique, on sait qu'on va voir un groupe amateur, on va voir un groupe pro. Nous, c'est pas bien différencié tout ça, donc je pense que c'est ça qui a du mal à se développer pour la partie pro. Parce qu'en amateur, c'est incroyable, on n'a jamais eu autant de demandes de cours, de stages, tout le monde veut en faire, parce qu'on a envie de s'exprimer, de lâcher prise. Alors ça, on pourrait vivre de ça très bien si on faisait que ça, vraiment. Mais on n'a pas envie, on a aussi envie de jouer.
Est-ce que c'est lié aussi au développement personnel? J'ai l'impression qu'ils ont un peu amalgamé ça de théâtre impro et développement personnel. Ce qui fait vendre, ce qui est bien, mais en même temps, ça ne professionnalise pas.
On est carrément pour ça, mais il y a comme faire du sport de manière pour se faire du bien. Je vais courir parce que voilà, ça me fait du bien. Et maintenant, je décide de courir et de devenir professionnel et me faire sponsoriser et de remporter des courses et voilà.
Peut-être qu'il manquait un lieu comme le Jamel Comedy Club, c'était le stand-up, ça a quand même commencé comme ça.
C'est pas faux.
À Paris surtout, parce qu'il y a une scène d'improvisation qui s'appelle l'Improvidence. Il y a deux salles, une à Bordeaux et une à Lyon, qui sont ces deux salles sont vraiment à la source d'émergence de beaucoup de compagnies, d'improvisation, etc. Mais elle n'existe pas à Paris, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même assez rigolo. Même, en fait... Paris n'est pas le... Je pense que c'est ça aussi la différence avec le stand-up. Paris n'est pas le centre de tout ce qui se fait en impro. Il y a plein de villes en France où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'improvisation. Par exemple, enfin même de régions, parce que la Bretagne,
les Bretons sont...
c'est de l'improvisation partout. Je ne pense pas dire de bêtises quand je dis que quand on parle d'improvisation à un Breton, il va savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a énormément de compagnies d'improvisation. Il y a... un festival international d'improvisation, il y a... Enfin, Paris, il y a des festivals, il y en a, je crois il y en a deux gros,
oui.
Mais...
Et ne serait-ce que un pro en scène qu'on a fait souvent, qui est génial, parce que ça... on a adoré le faire, ça nous a permis un petit peu de nous montrer, qui est organisé au théâtre du Gymnase, depuis maintenant, enfin avant c'était ailleurs, mais depuis maintenant quelques années. Et c'est 4 ou 5 jours, et à l'intérieur de ça, sont mélangés des gens pour qui, on fait ça pour se marrer, et des gens... pour qui c'est viscéral comme nous. Et je veux pas dire de bêtises parce que je veux pas qu'on croie que je trouve ça pas bien, mais c'est juste le mélange qui est compliqué pour nous. Et on a quelques amis ou élèves qui sont venus et qui disaient mais je comprends pas, j'ai vu un truc qui avait l'air vraiment de qualité très basse et puis après j'ai vu un truc qui était incroyable. Bah oui, c'est pas travaillé de la même manière et puis il y a quand même une différence quand c'est son métier.
Oui, et puis ça crée aussi une confusion parce qu'on se dit tout de suite, en fait on peut voir des choses très très bien et des choses où ça va être beaucoup moins bien et en fait on sait jamais la qualité, donc aller voir un spectacle d'impro, on peut se dire ah ben on saurait jamais sur quoi on tombe, alors que si on a des professionnels tout de suite on sait qu'il y aura une qualité.
C'est ça.
Et dans le festival, il ne sépare pas un spectacle amateur, un spectacle professionnel.
Non, en tout cas à Paris non, en Bretagne non. Par exemple, nous on l'avait fait où là il y avait le festival amateur et le festival professionnel et c'était bien, parce qu'on
bien
sait ce qu'on va voir. Okay. Et non, à Paris c'est vrai qu'il y a un peu ce...
Parce que... ça reste hyper important dans la pratique de l'improvisation quand on est amateur de passer au plateau. Parce qu'on le voit, nous, en tant que professeur, quand un élève passe au plateau, il gagne énormément en expérience parce qu'il y a plein de choses qu'il n'a jamais expérimentées en entraînement. Que là, d'un coup, la proximité avec le public lui fait gagner, j'aime pas ce terme, mais en niveau. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Donc, c'est super important qu'en tant qu'amateur, il joue. Juste ce que dit Joanne à juste titre, c'est-à-dire que nous, on aimerait un cadre aussi professionnel et amateur. Que ça ne se mélange pas à ce point-là. Pour tout simplement, je pense que ça aiderait à l'émergence de l'improvisation. Si on connaît des compagnies professionnelles, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, et qui font des choses assez incroyables, honnêtement. Et du coup, on trouve ça dommage que des fois, des gens qui pensent aller voir un spectacle professionnel se retrouvent face à un spectacle amateur et disent « Ah, mais c'est nul, l'improvisation. » Alors que, bah, si déjà de un, s'ils savent que c'est un spectacle amateur, ils seront beaucoup plus gentils avec les gens qu'il y a au plateau, tout simplement. Et pour nous, c'est, ce sera peut-être plus facile aussi de se produire, tout simplement.
Vous parlez de, donc, des élèves, des cours, des choses comme ça. Comment vous, vous travaillez? Comment quelqu'un qui veut faire du théâtre d'improvisation travaille hors plateau?
Ah, hors plateau, hors nos cours.
Hors vos cours, ouais. Juste vous, quand, avant d'être sur le plateau, comment vous vous préparez à ça?
Nous, moi j'aime dire, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait d'être observateur dans la vie, c'est incroyable. Comment en fait juste s'asseoir à une terrasse de café ou se mettre. Moi j'adore les sorties de métro, je ne sais pas pourquoi, parce que les gens sont dans une sorte d'instantanéité, ils sont pressés. Bon là, c'est que pour les grandes villes qui ont des métros. Mais en tout cas, des endroits où ça vit, c'est incroyable de voir les comportements des gens, d'essayer de s'inspirer pour créer ces personnages, parce que c'est hyper important. Nous, on a à cœur vraiment de dire l'impro, c'est pas juste je viens et je suis un peu moi-même et on verra ce qui se passe. Ça marche une fois, deux fois, après le soi-même, bon, ça reste du théâtre, ça reste interpréter des choses. Donc pour, je trouve, se nourrir de ça. Et on aime aussi leur dire de se cultiver, ouais, toujours pareil, très humblement, lire, voir, écouter. On a besoin, vu qu'on n'a rien, il faut qu'on crée tout. Et ben il faut, même nous on a beaucoup d'élèves, soit ça se mélange au niveau des âges, mais la dernière fois on travaillait sur l'univers du super-héros et il y en a qu'on n'a jamais vu un, je dis c'est important, ça veut pas dire qu'il faut aimer. Moi je suis pas forcément une grande fan des films de super-héros, mais je m'attelle à aller voir et je m'attelle à lire quand même du théâtre et je m'attelle à ouvrir un journal, enfin.
Parce qu'il y a quelque chose de, il y a une base en improvisation qui est hyper importante, c'est apprendre à imiter. Parce qu'il y a ce que nous on appelle les catégories, qui sont des façons de jouer à la manière d'un auteur, d'un type de film, film d'aventure, film de super-héros, etc. Et donc on invite nos élèves à regarder un maximum de contenu pour pouvoir après imiter, arriver à capter quel trait il faut tirer pour que les gens se disent « Ah mais d'accord, j'ai compris direct ce que c'était ». Et plus on regarde, plus on est capable d'imiter.
Et comme un enfant, souvent on leur dit qu'il faut revenir un enfant pour apprendre, il copie. Ouais. Au début, il copie comment on parle, il fait bah, 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 bah. Et en impro, on leur dit mais copier. Souvent, ils veulent sortir leur originalité, leur truc à soi. Et on dit oui, ça tu l'as en fait, on va pas te faire travailler ça. Par contre, ce que t'as pas, c'est d'essayer d'aller copier. Nous, c'est là qu'on peut apporter notre savoir et fixer ça. Et après, ils vont forcément, si Clotilde cherche à imiter, ce sera pas moi qui cherche à imiter, on aura nos personnalités d'actrice et d'humaine. Voilà. Donc, ouais, imitation. Et culture.
Je ne sais pas s'il y a un truc un peu trop scolaire, mais est-ce qu'il y a des recommandations de livres ou de podcasts à lire ou à écouter qui peuvent former au théâtre d'improvisation?
Ouais, il y a quelques livres intéressants. Nous, on a beaucoup travaillé à partir de celui de Christophe Tournier. Il en a écrit deux, où là, il y a des exercices et quelques conseils sur l'impro qui sont vraiment une sorte de petite base, une petite... un peu les classiques, les premiers pas là-dedans. Moi, je trouve que quand on démarre, c'est vachement bien. Après, nous, on s'en sépare, mais...
Oui, en fait, je pense qu'en improvisation, il y a deux écoles. Nous, on est plutôt dans la partie... la théorie, c'est super, mais pratiquer. Un peu comme le sport. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut... t'auras beau lire tous les livres sur le foot, si tu n'as pas pratiqué le foot, tu ne vas pas mettre des buts directs. Enfin, mon allégorie, elle n'est pas bonne, parce que je ne connais pas très bien le foot, mais... et du coup, en fait... C'est super important de connaître la théorie, ce qu'on disait sur les règles, etc. Mais tant que tu n'as pas pratiqué, tu ne seras pas au top, je dirais. Parce que l'improvisation, c'est beaucoup d'instinct. Tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est impossible. Parce que chaque seconde compte, et le temps que tu réfléchisses, bah, y a peut-être l'histoire à avancer. Et du coup, si tu rentres en te disant « Ah, je vais faire ça », et en fait, bah, l'histoire a avancé, donc tu vas arriver, et ce sera complètement à côté. Donc... c'est super de lire, d'écouter, de, comme on disait, regarder, etc. Mais faut passer au plateau. Faut expérimenter. Et c'est pour ça, ce que je disais, c'est quand ils passent la première fois devant un public, ils passent un cap énorme parce qu'ils ont expérimenté aussi ce que c'était de pas avoir le choix. Et juste d'écouter leur instinct, parce qu'en fait, quand t'es mis face à un public, tu peux pas faire « Ah non, au final, je m'arrête en plein milieu de la scène et je coupe l'improvisation. » Non, t'as pas le choix. T'es en représentation, donc, comme on dit, « The show must go on », et c'est très vrai. Et c'est là où ils se révèlent, c'est là où ils révèlent leur instinct, etc. Donc, oui, effectivement, je dirais Christophe Tournier, c'est peut-être le mieux, parce que c'est c'est un mélange entre théorie et pratique, parce que ça amène aussi des exercices qui sont super intéressants. Mais après...
En tout cas, pour ceux qui démarrent, c'est que je suis assez d'accord avec toi. Presque une fois qu'on a fait, on peut revenir un peu à la théorie, parce que ça y est, on a expérimenté. Et nos élèves, ils disent souvent qu'ils apprennent beaucoup en allant voir d'autres improvisateurs.
Ça, par contre, ça, c'est vrai.
Ça, ils adorent. Ouais. Parce que d'un coup, tout ce qu'on a dit, ils font « Ah, d'accord !» Parce qu'ils ne l'ont pas vu, en fait. Donc, on a beau dire... Voilà, et quand ils vont voir d'autres improvisateurs qui réussissent ou qui ratent, enfin, ouais, ils ont ce truc-là de s'en rendre compte. Allez voir.
Pratiquer. Ouais. Ça, vous avez déjà imaginé un spectacle en radio live? Parce qu'en fait, le théâtre d'improvisation et la radio, c'est cette instantanéité qui est liée. Est-ce qu'il y en a qui existent? Je suppose que oui. Mon réel me dit oui de la tête, bien sûr, évidemment, Rosalie. Est-ce que vous en avez déjà pratiqué?
Non.
Déjà entendu?
Non. On n'a pas fait. Non. Pour les mêmes raisons que je pense que là, on se mélange beaucoup dans la compagnie et on a des gens qui savent faire pas mal de choses aussi. Mais nous deux, avec une formation très théâtre, classique, etc., on n'était pas forcément au fait de tout ce qui pouvait se faire au niveau technique, micro, etc. Donc ça ne nous est pas venu. En revanche, on aime bien mélanger plutôt ça sur scène parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai participé donc avec la maman de Clotilde, qui est comédienne aussi, à un format où on double, on fait du doublage en improvisation. Donc là, on a ce rapport au micro, à l'image, mais moi j'adore regarder ce côté live, donc c'était une forme de live avec micro, mais pas comme ça, non. Mais effectivement j'en ai déjà entendu.
D'ailleurs l'improvisation commence à arriver sur Twitch.
Et oui.
Oui, ce qui est super logique.
Ce qui est hyper logique,
complètement. Avec, bien sûr.
Dans votre compagnie Limon, vous faites des matchs d'impro. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer un peu plus précisément pour quelqu'un qui n'y connaît rien?
Donc le match d'improvisation, c'est né dans les années 70 au Québec. C'est pas du tout de chez nous. Pour la faire courte, ils se demandaient, c'était un groupe de comédiens, un peu si on veut caricaturer, un peu un télo, qui trouvait que le théâtre marchait pas tant que ça, et que les gens là-bas allaient tous voir du hockey sur glace, qui est l'équivalent du football en France. Et ils se sont dit, mais comment on pourrait faire pour ramener ce public aussi un peu plus populaire, que ce soit pas que un peu les intellos d'un côté, les populaires de l'autre. Et ils se sont dit, bon, on va mélanger un peu les choses. Et ils ont fait un test, ils ont dit, on fait une soirée comme ça, on mélange un peu les codes du hockey sur glace et les codes du théâtre. Alors, grande surprise, ça cartonné. Ils ont été un peu vexés parce que ça a énormément ri. Ils racontaient ça parce qu'ils s'attendaient à faire un truc un peu performance. Voilà. Et en fait, ça a beaucoup ri. Puis il y en a quand même un ou deux. Donc Léon Gravel et Yvon Le Duc ont dit « Ouais, il y a quand même un truc à faire. Je pense qu'il faut aller là-dedans. » Et puis ils ont... Voilà, je vous passe les détails, mais ils ont déposé. Là-bas, c'est déposé. C'est un vrai concept. Toutes les règles du match. Et en gros, ce sont deux équipes mixtes, si on a les règles de base. Hein. Deux filles, deux garçons de chaque côté. Donc, quatre comédiens, quatre comédiens avec un coach, un arbitre, un band, vraiment pour avoir ce côté, donc des musiciens, pour avoir un côté hyper chaud à l'américaine. On joue dans une patinoire où il n'y a évidemment pas de glace, mais on a le décorum. On est avec des maillots de hockey pour se différencier. Et un MC qui va chauffer la salle, un vrai maître de cérémonie à l'américaine. L'arbitre a préparé dans le plus grand secret des thèmes, ce dont parlait Clotilde, des titres d'improvisation, avec des catégories et des temps, à la manière de Molière, à la manière d'un film d'horreur, à la manière d'un dessin animé, etc. Ou libre, et on fait ce qu'on veut. Les temps peuvent aller de 45 secondes à 45 minutes, sachant que c'est deux manches de 45 minutes, ça se voit rarement. Et un nombre de joueurs de 1 à 8. Et ensuite, on s'affronte, évidemment pour de faux. On essaye de faire des belles impros, soit en mixte, donc ensemble, soit en comparé, une équipe puis l'autre. À la fin, le public vote pour l'improvisation qu'il a préférée. Et au Québec, ils le pratiquent encore. Nous, moi, en France, ils n'aiment pas l'impro, ils ont le droit de jeter des chaussons sur nous. Il y avait cette volonté de garder un peu ce côté très chaud. Ils sont quand même très américains dans leur manière de faire, que nous on aime moins souvent en France. On a oh non, les chaussons, non, pour notre ego, pas très agréable. Et eux, ils veulent le chaud. Et le public, voilà, et à la fin, on élit la meilleure équipe du soir.
En criant.
Ils votent avec un carton dans les vraies règles.
Okay.
Un carton de couleur aux couleurs du maillot.
Ok, ouais, donc à la fin, t'as un nombre de points et tu gagnes.
Voilà. Un peu le gros concept. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ce côté, comme je disais, de mélanger le côté très sport, très instant, très... On n'est pas sur des grosses pièces, on est sur des petites scénettes et créer encore plus le côté instant de l'impro, quoi, sur 4-5 minutes.
Est-ce que c'est ça aussi ce que vous faites avec la compagnie Limon?
Entre autres.
Oui,
on fait un peu de match.
Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle des longs formats. Et les longs formats, c'est une pièce improvisée d'une heure.
Oui, il y en a une, c'est j'ai beaucoup aimé Amour, gloire et impro,
oui.
Sur le thème des soap opéras, c'est ces séries feuilletons. J'ai lu aussi que vous avez Hôtel Gravel et King Impro.
Ouais.
C'est quoi la différence entre ces deux derniers?
Hôtel Gravel, c'est un long format qui se passe dans un hôtel des années 20, où le public choisit, parce que nous, on a, chacun de nous a travaillé 5 personnages. Donc les personnages sont tirés au hasard avec une carte. Et à partir du moment où on a notre personnage, pendant une heure, on joue ce personnage des années 20, dans un hôtel des années 20. Et c'est tout ce qu'on a. Si le public donne le titre de la pièce, et à partir de là, on fait une pièce. Ça ressemble à presque un boulevard des années 20, je dirais.
On voulait que les gens aient l'impression d'une vraie pièce de théâtre, ouais, en fait. Mais tout est improvisé. Mais les personnages sont quand même là. Et effectivement, on ne change pas. Donc ça, c'était le côté. Et puis 13 années 20, donc on a travaillé un langage.
On a des costumes. Tout est fait pour que vraiment le public soit dans cet hôtel des années 20 avec nous. On n'a pas des tenues noires, on n'a pas tout ça. En fait, on a vraiment de vrais costumes qu'on a travaillés, etc. Et King Impro,
c'est pour les jeunes déjà.
C'est notre format pour enfants. C'est 3 improvisations de 15 minutes. Et on choisit dans le public 3 personnes qui vont, à chaque impro, donner le personnage. Ils vont inventer le personnage, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Ils vont inventer de A à Z le personnage qui va être le héros de cette improvisation. Le public vote pour l'improvisation qu'ils ont préférée. Et du coup, à la fin, la personne qui a choisi, qui a créé le personnage de l'impro qui a gagné, devient le nouveau King Impro. Donc on lui offre une couronne, tout ça. C'est pour ça que c'est un format pour enfants. Ils adorent voir leur personnage vivre et être créé en direct, c'est très rigolo.
Et sur des formats, ce qu'on appelle un peu plus moyen format, ouais, un quart d'heure, même c'est plus doux pour eux, parce que se lancer dans des histoires très longues pour les plus jeunes. On avait aussi à cœur de faire des choses pour eux, parce qu'on se disait qu'en impro, il n'y avait rien qui était fait pour eux.
Oui, c'est vrai.
Pour le jeune public, et nous, on pratique aussi du théâtre pour les enfants, et on trouve ça assez incroyable d'aller au théâtre si tôt. Voilà.
Et je me demandais, mais je pense que vous avez déjà un peu répondu, vous n'avez pas besoin en fait de co-autrice, vous ne travaillez pas avec des co-auteurs pour vous inspirer, c'est un travail que vous faites vous-même
Oui, on n'a pas... En fait, il y a très peu d'écriture en improvisation. C'est, notre travail principal, c'est de travailler le concept, c'est-à-dire les rebords de nos règles. Quelles vont être nos règles? Par exemple, l'hôtel Gravel, on s'est dit, ok, donc on se cantonne à avoir un personnage et un titre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voir comment ça évolue. Est-ce que nous, on se donne des cadres? Alors, on n'aime pas trop les cadres. Il y a des compagnies qui ont des concepts très cadrés, où il y a des rendez-vous très précis. Nous, on est très mauvais à ça. Plus on a de liberté, meilleur on est. Donc, on se donne rarement des cadres.
En fait, on travaille tout ce qu'on n'a pas, parce que ce n'est pas du théâtre. On n'a pas de décor, donc on va travailler le mime. On n'a pas de... Alors, la costume, exceptionnellement, mais on travaille les corps des personnages, les voix, la construction ensemble. On n'a effectivement aucune trame. Souvent, les gens pensent qu'on en a une. Et à aucun moment, on se dit, alors, à moitié, on doit être... Il doit y avoir un mort. Et puis après, pas du tout, parce qu'en fonction des journées. En revanche, c'est vrai qu'on travaille énormément, mais ça, c'est notre côté de théâtreuse, on va dire. Les personnages, c'est un travail énorme, oui, sur Hôtel Gravel. Comme on en a 5 chacun, on retrouve la voix, le corps.
Même sur Amour, Gloire et Impro, on a fait un gros travail de personnages aussi sur...
De pasticher cette manière de parler du double. Enfin, ils jouent comme si on était doublé. Enfin, on joue comme si on était doublé un peu de cette manière. Un petit peu toujours, de parler comme ça. Enfin, voilà. Et on a travaillé beaucoup à ça. Donc c'est plus la façon de jouer que ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais ouais, non. Pour répondre, on n'a jamais travaillé avec des co-auteurs.
C'était une question, parce que dans le théâtre, ils travaillent souvent avec des co-auteurs, oui, co-autrices. Ouais. Mais même, je vois ça aussi avec les sportifs, ils s'entourent souvent de professionnels. Par exemple, je sais que j'avais interviewé une stand-upeuse qui avait fait quelques sessions avec une coach vocale, des choses comme ça. Est-ce que vous vous entourez aussi de professionnels?
Je dirais qu'on travaille quand même pas mal en collectif. Nous, on la dirige, au sens qu'on prend les décisions artistiques pour la compagnie, on prend tout ça, on dirige administrativement aussi. Mais on est 11 comédiens, dont par exemple un qui est chanteur lyrique à côté, un qui fait du stand-up, qui écrit, un qui est circassien, Tullio, corporel. Et en fait, je pense que c'est là-dessus qu'on s'aide, comme c'est un gros collectif. Tullio Cipriano, qui fait aussi du cirque, de l'acrobatie à côté, va nous aider sur toute la partie corporelle, le chanteur lyrique sur les placements de voix, on chante aussi dans les spectacles. Enfin, je dirais plutôt que le collectif nous amène à ça, mais qu'après, non. Non, non, on a quand même un peu à cœur, toujours pareil, avec beaucoup d'humilité, de aussi nous amener notre univers. Il y a tellement de manières de faire de l'impro que...
Après, il peut arriver si on coince sur des façons sur des catégories, etc., qu'on se renseigne aussi auprès d'autres professionnels pour savoir, par exemple, je dis n'importe quoi pour une improvisation à la manière d'une comédie musicale. Discuter avec des gens qui font de la comédie musicale va nous aider à connaître aussi tous
les rouages.
Les rouages, ouais, de la comédie musicale pour que nous, on soit au plus proche de ce qui se fait réellement. Ça, ça peut nous arriver. C'est pas de la.
Oui, c'est discuter entre collègues, ouais, d'une certaine façon, comme à la machine à café, sauf que vous, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus drôle.
Oui, c'est ça.
Et je vais terminer par la dernière question que je pose toujours, c'est quel conseil qui ne vous a pas aidé dans votre processus créatif?
Ah.
Quelque chose qu'on vous a dit après coup, pff, oh là là, mais quelle mauvaise idée.
Ah, c'est une bonne question.
Ah, c'est une très bonne question.
Ouais, je pense qu'on l'a souvent entendu, peut-être de manière plus générale, mais vouloir plaire.
Ah oui.
Ça, c'est une cata, mais c'est, enfin, c'est une cata, je trouve. Et à quel point nous-mêmes, on se remet en phase avec nous-mêmes en disant ça ne sert à rien, on ne plaira pas à tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit un moteur de. Ou avoir peur que le public ne comprenne pas aussi. C'est souvent.
Ah oui, ça,
on
ouais.
les prend pour souvent plus bêtes qu'ils ne sont. Non, mais là, ils ne vont jamais comprendre. On ne sait pas. Et en fait, on se rend compte que tout le temps, on se trompe quasiment. Ils comprennent bien plus que ce qu'on croit. Et ouais, vouloir plaire, ça, c'est un peu cata. Parce qu'en fait, on plaît à personne à vouloir plaire à tout le monde. Et donc, du coup, on ne fait pas des vrais choix. Je dirais que ça, c'est un... Mais même pour être en tant que comédien. À quel oui. point, quand on veut plaire, on rate le casting. Et quand on vient avec ce qu'on est, plus souvent, on l'a. Et puis, si ça ne plaît pas, bah, ça ne plaît pas.
Et moi, je dirais être efficace. On nous dit souvent, en improvisation, il faut être efficace. Il faut aller au cœur de l'histoire. Allez-y, il faut faire rire, il faut être efficace. Il faut vraiment... Et c'est un mot que moi, je n'aime pas trop, l'efficacité, parce que... Bah, je pense pas que les plus grands auteurs du monde aient essayé d'être efficaces en écrivant des pièces, etc. C'est plutôt vouloir faire rêver et emmener le public plutôt que d'être efficace. Voilà, je dirais ça.
Ben merci à vous deux de nous avoir ouvert les portes du théâtre d'improvisation. Vous restez avec nous pour la deuxième partie. Et Clotilde et Joanne de la compagnie Limon sont toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'un politicien conservateur ou le nom d'une marque de céréales, des choses comme ça. Vous verrez, on a des catégories spéciales pour chaque épisode. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre. Alors, je vais lancer dans l'alphabet dans ma tête. Et puis, Joanne, tu me dis stop quand tu le sens. A.
Stop.
Oh, je suis tombée sur Q, ça va être super dur.
C'est dingue.
Est-ce qu'on refait ou est-ce que vous voulez ton...
Non, alors normalement si on
en
est...
En impro, on fait sur le... Ok, c'est sur la lettre Q. Je crois qu'on était déjà tombé sur la lettre Q la dernière fois.
Décidément.
Ok, bah c'est parti. Donc on va juste laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après.
Where I'm all starting.
Vous venez d'écouter Yaffa de Lana Lubnani sur Radio Campus Paris. Et on revient juste après cette petite pause musicale pour jouer au jeu. Vous avez bien terminé d'écrire. On va dévoiler les catégories. On a la première, c'est la, donc toujours avec la lettre Q. La première catégorie, c'est la phrase typique d'une vieille personne qui commence par Q. Est-ce que Clotilde, tu veux?
Je t'en prie.
Qu'est-ce qu'ils sont bruyants, ces jeunes.
J'ai. Qu'est-ce qu'il a dit?
Moi, j'avais. Quel tanné, ces jeunes sur Tok Tok. La deuxième catégorie, c'est une phrase de développement personnel qui n'a aucun sens.
Quoi qu'il arrive, laisse-le arriver.
Qui que tu sois, sois-le, mais mieux.
Et moi, j'avais quelqu'un qui n'a pas d'orange, ne peut se peler. Oh. La troisième catégorie, c'est le nom d'un États-Unien très conservateur.
Donald Trump.
Alors moi, il est franco-américain, c'est cucu la praline.
Moi, j'avais aussi un truc un peu français. J'avais Quentin Fonshire von Guttenberg.
Ah oui, ah oui.
Très, très long. Et après, il y a la phrase de quelqu'un qui se plaint pour rien. Vous avez trouvé quoi?
Qu'est-ce que j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal. Et en plus, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes et j'ai sommeil.
Qui a mangé le dernier yaourt à l'ananas?
J'ai que c'est dur d'avoir tout pour soi. Même la retraite, j'en aurais une. Et le dernier, le nom d'une compagnie pétrolière qui se met à l'écologie. En cul.
Qui veut être presque éco.
Alors j'ai... Qui peut tuer un pays peut le sauver.
Ah ouais. Ça donne envie, là. Le nationalisme, il arrive
et
tout
oui,
de suite.
Ils ont switché d'un coup, ils ont une conscience.
Est-ce que c'est pas ton politicien qui a fait cette, cette entreprise? Ouais, c'est qui la première qui a fait ça? Moi j'avais Q-O-B-S-V-V-N, Qatar Oil Bio Sourcing Very Very Natural.
Wow. Oh, très bon.
Incroyable.
Ouais. Écoutez, merci à vous de vous être confiés au micro de Blague à part. On retrouve la compagnie Limone sur Instagram à La Limone. Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin. Mais on se retrouve dans deux semaines, toujours à 18h sur le 93.9.